accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. Vous le savez peut-être, mais notre société a l'obligation d'accommodement raisonnable. C'est une question de droit pour tous et toutes. Et c'est peut-être pas le cas, peut-être que vous le savez pas, mais on doit aussi faire accommodement raisonnable pour le handicap ou sur le handicap. On reçoit donc aujourd'hui notre chroniqueur Franck Bouchard, oui voilà, qui va nous parler dans le particulier de comment accommoder au travail, et aussi d'autres chroniqueurs, notamment notre chroniqueuse sport pour la première fois, Émilie Bouchard-Labonté, aussi l'ambassadrice jeunesse à l'occasion du 375e de Montréal, Maude Massicotte, et on fera un petit force du nombre un peu plus tard, vous allez voir de quoi il s'agit. En ouverture de cette émission, une histoire d'accommodement beaucoup moins heureuse. Le docteur Leblanc, hématologue de renom, a dû lutter fort pour ne pas être handicapé par son diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Sur Canal M, la radio de Vues et Voix. On prend aujourd'hui des nouvelles du docteur Richard Leblanc, un hématologue réputé, qui avait été empêché de pratique à cause d'un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Il est avec nous en studio. Bonjour, docteur Leblanc.
Bonjour.
Merci d'être là, puisque vous pratiquez à Sherbrooke avec cette intempérie incroyable que nous vivons. C'est un tour de force que vous soyez avec nous. Mais merci beaucoup. Donc, résumons d'abord votre histoire. Vous avez obtenu un diagnostic tardif d'Asperger. Quel a été l'impact de ce diagnostic sur votre vie professionnelle, vous diriez?
Ben, premièrement, il y a l'histoire que le diagnostic est vraiment venu sur le tard. Après que j'ai déjà débuté commencer à travailler officiellement en tant qu'hématologue au CHU en 2004, mon diagnostic est arrivé en 2012.
Okay.
J'avais à l'époque 55 ans. Mm-hmm. Alors l'impact, il y a deux impacts. Il y a un impact pendant mon apprentissage, un Asperger qui s'ignore. Mm-hmm. Moi, ce que je pourrais probablement mentionner, c'est les dires d'un de mes mentors, un bon mentor d'ailleurs, au Royal Vic dans le système de McGill, Dr. Dawson, qui disait... Richard, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a jamais compris comment ton cognitif fonctionne, mais il te permet justement de fonctionner très bien en mm-hmm. tant que résident. Mes années de tronc commun, qu'on appelle de résidence de médecine interne, ont été des années assez formidables pour moi.
Mais il faut dire qu'avant, en plus, vous aviez des études supérieures en physique, vous étiez dans le quantitatif, vous avez été professeur aussi.
Oui, effectivement. Très brièvement, j'ai eu un baccalauréat physique de l'Université de Montréal, une maîtrise en aérospatiale à l'Université de Toronto, puis mm-hmm. un PhD de mathématiques physiques à l'Université de Toronto aussi. 3 années de postdoc aux États-Unis, 2 années d'enseignement à McGill avant de décider de partir en médecine à l'âge de 33 ans.
Une petite feuille de route, vous avez. En tout cas, intellectuellement, c'était simple, c'était facile, il n'y avait pas de challenge, si vous me permettez. Mais donc, quand vient la pratique avec les autres médecins, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à Maisonneuve-Rosemont, c'est bien ça?
Bien, à Maisonneuve-Rosemont, c'est l'épisode de ce que j'appelle, ce que nous, on appelle une surspécialisation, c'est-à-dire qu'après ma résidence officielle, j'ai décidé d'aller en surspécialité. Il faut faire remarquer d'emblée que les surspécialisations au Québec ne sont pas accréditées par les collèges. Mm-hmm. Ça veut dire qu'essentiellement, que quand tu approches une équipe en disant « j'aimerais devenir, disons, greffeur de moelle », comme dans mon cas, ça devient ce qu'on pourrait appeler en bon anglais un gentleman's agreement. Mm-hmm. Ça veut dire que tu t'engages à me donner une surspécialisation, on comprend que ce n'est pas accrédité, donc essentiellement, c'est vraiment un endroit où l'honnêteté des deux parties est en jeu.
Ouais.
Et puis, dans mon cas, on m'a donné comme consigne de quitter le Québec après ma surspécialisation.
Écoutez,
c'était un petit peu difficile.
C'est un moment très difficile. Il faut que les gens comprennent ce qui s'est passé. Oui. Donc, pour atteindre, ou plutôt être agréé comme surspécialiste dans cette équipe-là, il y a des dimensions vraiment importantes. Il faut qu'il y ait un mentor et quelqu'un qui vous montre le travail. Puis il faut qu'une équipe vous accepte. Donc, c'est un petit peu à la discrétion, je dirais, des sensibilités de ces personnes, si vous pouviez continuer de pratiquer là.
Ouais. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi les collèges, vous allez voir, je suis très pragmatique, les collèges ont réalisé, d'ailleurs, pas seulement les collèges, mais aussi la Fédération des médecins résidents du Québec, qui a sensibilisé un petit peu notre population à nous. On nous appelle les fellow kamikazes. Mm-hmm. Ça veut dire des gens qui s'engagent dans une surspécialisation au Québec sans aucune garantie d'emploi en fin de parcours. ce que Dr. Couillard, d'ailleurs, du temps qu'il était ministre de la Santé, a déploré.
Ah oui. Alors, donc, aucune protection rendue. Là. C'est pratiquement les individus qui décident de votre sort.
Effectivement. Et puis, pas des individus. Généralement, il y a un ou deux individus. Si tu as ma chance de rencontrer des gens qui ne sont pas, disons, généreux de leur personne, ça pourrait très, très mal aller. Et puis, pour faire le pont avec le diagnostic, effectivement, être aspergère, c'est bien écrit dans les livres, c'est qu'on est très, 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 comment je pourrais dire ça, on suit les consignes au pied de la lettre. Pour nous, des règlements sont des règlements. Si ouais. Couillard dit « vous le gardez », puis moi, mon mentor me dit « tu quittes le Québec », mais pour moi, ça a créé une crise, ce que les gens appellent une crise de non-sens en français, puis un joli meltdown, comme on dit en anglais, alors, effectivement.
Donc, vous êtes... par nature, j'oserais dire, un spécialiste de la déontologie aussi?
Ben, encore une fois, étant donné que l'asperger a tendance à beaucoup vouloir respecter l'esprit de la loi, l'esprit de la lettre, le fameux code des docteurs, notre fameux serment d'Hippocrate. Mm-hmm. Alors, ça, on me dit « primum non nocere », mais pour moi, ça va être au prix de la lettre. Puis effectivement, ça a des ramifications dans la science médicale, dans la déontologie médicale, dans le professionnalisme médical.
Mm-hmm. Donc, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on dit vous ne devriez pas pratiquer, rendu à Maisonneuve-Rosemont, ouais. comme hématologue, mais aussi greffeur ouais, de moelle.
J'ai perdu un poste qui m'avait été donné par le ministère. Là. Mm-hmm. Nous, dans notre jargon, on appelle ça un PREM. Alors, premièrement, crise, 2003, je perds mon poste à Montréal, un an pour me trouver un poste à Sherbrooke. Mais il faut remarquer une chose, c'est que quand on me refusait mon poste à Maisonneuve-Rosemont, on me refusait essentiellement l'accès à des lettres de référence. Puis sans lettres de référence dans notre profession, on est mort. Alors, il y a comme eu une mise à mort professionnelle d'emblée, avec laquelle, d'ailleurs, je me bats depuis. De peine et de misère, je me retrouve à Sherbrooke, dans un lieu qui n'était pas le lieu... où j'avais prévu faire ma profession. Mm-hmm. Et puis là, bien entendu, en arrivant là, en crise, il a fallu que je m'adapte à un petit groupe qui était un petit peu désorganisé. Il y avait un programme de résidence d'hémato qui était à mort, qu'on m'a demandé de recréer. Bref, je me retrouvais dans des circonstances, encore une fois, où un aspergeur va avoir des problèmes à naviguer la chose.
Mais même en tant qu'aspergeur, mais... peu importe, vous êtes ramassé dans des situations assez compliquées.
Ouais.
C'est 2012 hein, où vous êtes obligé de quitter cette pratique-là
ouais,
que vous
merci,
aimez.
Oui, c'est ça. Donc, je commence en 2004. Il y a eu des accros, mais encore une fois, tous les accros, pour moi, sont reliés avec le professionnalisme, etc.
Ouais.
Au fil des mois, tensions accrues. En 2012... je me vois confronté par des administrations. Quand on dit deux, il faut comprendre que dans un CHU, il y a l'administration universitaire, l'administration hospitalière. Donc, mm-hmm. j'ai deux paliers d'administration qui essentiellement commencent à faire des pressions pour que je quitte le groupe.
Ouais.
Et moi, je leur dis à un instant, là, je veux dire, il y a des problèmes sur le terrain, mm-hmm. des problèmes d'accès à la spécialité, à nous, les spécialistes. Et puis ça, d'ailleurs, Barrette ne fait que tenter de corriger le tir maintenant. On anticipe beaucoup les aspergeurs. Alors, bref, je voyais les problèmes sur le terrain. Beaucoup d'accrochages en mode continu avec mes collègues. Mes collègues font des pressions. Donc, en mars 2012, je demande à rencontrer un psychiatre qui me met en congé de maladie avec un diagnostic, disons, qu'on va appeler provisoire de trouble d'adaptation.
Mm-hmm. Mais c'est sûr que... Bon, les psychiatres, on connaît les conditions de pratique. La psychiatrie au Québec, ça va vite.
Ouais.
Mais vous avez fait un certain travail, vous avez compris, nommé ce que vous aviez, au fond.
Oui, non. Même moi, à l'époque, je cherchais le diagnostic, en fait. J'avais tout simplement l'impression que ce qu'on me donnait, phobie sociale, trouble de l'adaptation, ça ne cadrait pas du tout.
Ouais.
Puis quand je suis tombé en congé maladie en mars 2012, là, j'ai dit, il faut absolument que je trouve le diagnostic. Mm-hmm. Et puis pour une raison ou autre, comme vous dites vous-même, personne, j'avais consulté le programme d'aide aux médecins du Québec, entre autres, puis personne n'avait fait allusion, ne fût-ce qu'à l'existence du syndrome.
Ouais.
Alors, ça a été un peu une surprise pour moi de lire dans des biographies d'anciens physiciens, d'ailleurs, la description.
Ah,
alors,
ouais.
J'ai été à la source, j'ai trouvé des ressources sur le web
Cette recherche-là a été ardue, mais même collectivement, ça fait pas longtemps qu'on parle des aspergères.
Effectivement.
Et je voudrais dire que vous avez dû, une fois que vous avez ramassé un peu votre état, parce que, bon, c'était difficile, j'imagine, de perdre ce poste, de comprendre votre posture intellectuelle, qui est très belle, d'ailleurs, mais qui parfois complique les choses, semble-t-il. Vous êtes parti pour faire reconnaître vos droits. Vous avez fait appel au maître, à Maître Ménard. Et donc, vous avez intenté une lutte, au fond.
Oui, c'est ça. Premièrement, on m'empêchait de revenir malgré qu'on avait annoncé le diagnostic à l'hôpital. Moi, je m'attendais à beaucoup plus d'accommodement, là, disons, utilisons le mot.
Bien, c'est très clairement ça.
Alors, ce qui est arrivé, c'est que Maître Ménard, mais il y a aussi, je dois avouer, je mentionne son nom parce que je lui suis redevable de beaucoup, Maître Bugeaud de Mécanté-Trétrou à Montréal, qui a été mandaté par l'ACPM, l'Association canadienne de protection médicale, qui, bizarrement, non seulement nous protège contre des patients, disons, qui pourraient nous poursuivre pour erreur médicale, mais aussi qui nous protège contre nos administrations.
Ah ouais.
Alors, Maître Bugeaud a enclenché un processus qui a fait en sorte que lui et j'ai réussi à faire arrimer d'ailleurs l'ACPM avec Maître Ménard, parce que ce sont...
C'est pas des gens qui se parlent d'habitude.
Non.
Donc, d'habitude, Maître Ménard, pour vous faire comprendre, il défend les patients et Maître Bugeaud défend les spécialistes contre les patients.
C'est un coup de force que j'ai réussi à amener deux ennemis naturels à travailler de concert avec moi. Et puis, pour faire une histoire courte, ces deux entités-là, les deux cabinets, Mécanté Tétrault et Maître Ménard, ont réussi finalement à faire...
À travailler de concert pour y arriver. Écoutez, il y aurait eu des tonnes de choses à dire, mais ce que je dois souligner, c'est que vous avez reçu le prix Orange de l'Association des groupes d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec l'an dernier pour souligner votre combat. Vous avez réussi à continuer de pratiquer, mais à Sherbrooke, votre cœur était resté un peu pourtant dans l'hématologie à Montréal. Est-ce que vous croyez que ce sera possible un jour, très brièvement, en 30 secondes, d'y retourner ou d'avoir gain de cause?
Disons, comme je dis à tout le monde, il va falloir... la première étape pour moi, c'est une étape de validation. Il va falloir que les gens valident que, premièrement, il y a des impairs, non seulement pour moi en tant qu'asperger, mais des résidents, des gens en formation en médecine. Le milieu médical, l'éducation est extrêmement, extrêmement difficile. On en parle beaucoup dans les journaux. Alors, validons les impairs sur le terrain. Puis après ça, moi, cette étape-là franchie, je pourrais l'utiliser pour reconfigurer une carrière.
Bon, parfait. Mais écoutez, merci pour le travail collectif que vous avez fait aussi. Docteur Richard Leblanc, on reprendra de vos nouvelles sous peu.
Merci.
Handicap peut survenir dans la vie. On peut avoir une maladie dégénérative qui se déclare quand on est bien en selle, dans un emploi confortable. Ou encore, on peut voir notre vision faiblir jusqu'à changer complètement nos capacités. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? L'obligation d'accommodement raisonnable au travail. Et pour expliquer comment ça se passe, notre chroniqueur Monde du travail, Franck Bouchard, est avec nous. Bonjour, Franck.
Bonjour.
Merci de nous expliquer ça, donc. D'entrée de jeu, que doit faire un employé ou une employée qui a besoin d'un accommodement raisonnable au travail?
Alors, écoutez, ce que doit faire l'employé, c'est d'abord, évidemment, s'adresser à son employeur parce que l'employeur, lui, a une obligation. Une obligation qui découle de la charte de la charte des droits et libertés de la personne. Le motif handicap peut être un motif de discrimination. Et dans ce contexte-là, il doit y avoir une mise en place d'accommodements raisonnables lorsqu'effectivement, il y a une situation qui se passe, donc vous le disiez, maladie, accident, etc. Besoin, l'emploi que la personne faisait, elle est peut-être plus en mesure de le faire l'ensemble des tâches ou une partie des tâches seulement. Donc, il doit y avoir à ce moment-là, l'employeur doit avoir à ce moment-là l'obligation de regarder avec la personne, mm-hmm. d'abord, comment on pourrait adapter son poste, revoir son poste, adapter les différentes fonctions de son travail. Mm-hmm. Est-ce que c'est une adaptation physique que ça prend ou est-ce que c'est d'autres types d'adaptations? Donc, c'est sûr qu'il y a une obligation.
Avant qu'on entre dans le détail, donc, on sent bien, là, il faut s'adresser à son employeur puis ouvrir le dialogue. Mais c'est quoi les étapes là, qu'on doit vivre pour y arriver?
Pour y arriver, ben, écoutez, je dirais que d'abord, c'est de s'adresser. Ça dépend évidemment du type d'employeur qu'on a. Si c'est une grande organisation, par exemple, il y a souvent des services de ressources humaines qui sont là et c'est évident qu'on va d'abord s'adresser à ces personnes-là. Il peut aussi avoir la présence d'un syndicat, de se faire accompagner effectivement par son syndicat. C'est quelque chose qui peut être tout à fait pertinent. Ils ont aussi, les syndicats, une obligation d'accompagnement de la personne. Ils ne peuvent pas dire non, on ne va pas t'aider. Ils ont une obligation aussi bien à cet égard-là aussi d'accompagner le travailleur dans sa recherche d'accompagnement.
Il y a certains syndicats qui ont des ressources à l'interne, mais ce n'est pas pareil partout. Hein. Je pense à la FTQ qui ont travaillé un ensemble sur l'handicap ou la CSN qui ont des choses, mais des fois, les petits syndicats connaissent moins la situation.
Là. Effectivement, bon, et peut-être, je devance peut-être un peu les ressources qu'on pourrait trouver, mais j'en parlerai tantôt parce que les syndicats, peuvent, même s'ils n'ont pas effectivement les ressources à l'interne, peuvent trouver des ressources à l'externe. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est de s'adresser à ces personnes-là. Ça, quand c'est une petite organisation, bien, écoutez, c'est de s'adresser au patron, la patronne, évidemment, au propriétaire pour voir, écoutez, j'ai une situation. Je pense qu'il faut l'ouvrir ouvertement, même si ça peut être pas toujours évident. Par exemple, si c'est un cas de santé mentale, bon, la personne vit une problématique, peut-être a besoin d'horaires allégés, de revoir son travail parce que, je donne un exemple, difficulté à gérer le stress, peut-être. Si l'emploi peut être anxiogène d'une certaine manière, comment on peut travailler là-dessus? Ça peut être plus délicat. C'est sûr que c'est pas tout le temps évident de s'ouvrir comme ça à son employeur. Ouais. Il peut y avoir la crainte de perdre son emploi, mais encore là, l'employeur peut pas se défiler, dire « ben non, je peux pas t'en donner » ou « il faut regarder, il faut qu'il regarde si, jusqu'à quel point il peut mettre en place des accommodements raisonnables, toujours, évidemment. Il faut voir jusqu'à quel point ça empêche de faire le travail, jusqu'à quel point ça a des répercussions sur les autres employés, les autres travailleurs, etc. Mais l'employeur ne peut pas dire non, je ne peux pas rien faire. Il doit regarder avec la personne, parce que je pense que la personne en partant, c'est un peu le premier expert, si j'ose dire, de comprendre sa situation et qu'est-ce que ça lui prend pour être en mesure de continuer à faire son travail. Donc, c'est avec la personne. Il peut, par la suite, l'employeur peut évidemment s'adresser à des ressources externes pour essayer d'aller chercher de l'aide, que ce soit, par exemple, un service spécialisé de main-d'œuvre ou un centre de réadaptation, tout dépendant évidemment de la nature un peu des adaptations à mettre en place.
OK. Donc, on est presque rendu là, hein? Avant de parler des employeurs eux-mêmes, s'ils sont faciles ou pas, mais quelles ressources on peut avoir quand ça va bien, hein, les situations qu'on dépeint, mais aussi quand ça va mal?
Quand ça va mal, quand ça va bien, je pense qu'effectivement, on peut s'adresser, même quand ça va bien ou que ça va mal, on peut peut-être s'adresser d'abord à la Commission des droits de la personne, de la jeunesse, qui a mis en place un service pour accompagner les employeurs, mais aussi les syndicats. Je parlais tantôt des plus petits syndicats qui auraient peut-être des besoins qui savent pas nécessairement comment aborder cette situation-là, peuvent s'adresser à la Commission des droits de la personne, donc parce qu'il y a un service d'accompagnement, justement, pour mieux comprendre les accommodements raisonnables, comment les mettre en place, à quelles ressources, où aller chercher ces ressources-là, comment ça fonctionne. Donc, c'est sûr que ça peut être une première porte, je pense, à aller cogner à la commission, à téléphoner aux gens qui s'occupent de ça, de ce service-là. On peut s'adresser, évidemment, aussi aux services spécialisés de main-d'œuvre qui ont le mandat d'accompagner. On pense souvent qu'ils ont un mandat d'accompagner les gens en recherche d'emploi et les aider à s'intégrer dans un emploi, mais ils ont aussi un rôle d'aider les personnes en emploi qui peuvent effectivement vivre une situation d'handicap créée par la maladie, etc.
Mais même les pour être maintenu en emploi.
Pour être maintenu en emploi,
parce que ça évolue, hein? Toute la vie, notre corps évolue, nos capacités évoluent. Il ne faut pas penser qu'on est d'un côté les accommodés, puis de l'autre ceux qui ne peuvent pas. Là.
Effectivement. Ouais. Donc, ces ressources-là sont là pour aider l'employeur et la personne aussi à cerner le besoin d'accommodement, jusqu'à quel point c'est possible de la mettre en place et trouver les moyens financiers lorsqu'il y a des besoins, lorsqu'il y a des coûts associés à ça. C'est quoi les ressources financières auxquelles s'adresser?
Oui, parce qu'il y en a des possibles. Franck Bouchard, on va mettre évidemment sur la page de notre émission plusieurs ressources pour accompagner, au-delà de votre chronique, les gens. Mais est-ce que les employeurs sont faciles à travailler avec l'accommodement raisonnable? Comment vous trouvez ça, là, votre appréciation générale?
D'après mon expérience, c'est difficile de se positionner si c'est facile ou pas facile. C'est difficile de trancher, là.
Ouais.
Je dirais que de plus en plus, les employeurs sont conscients de ces obligations-là. Mm-hmm. C'est sûr que dans des plus grandes entreprises, des fois, les gens qui sont là, qui travaillent au niveau des ressources humaines, sont plus familiers, plus sensibilisés, plus formés par rapport à ces obligations-là légales qu'elles ont. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir une ouverture. Dans les plus petites entreprises, des fois aussi, il y a une très bonne ouverture aussi parce qu'il y a une proximité s'est dégagée
avec
l'employeur.
C'est facile d'avoir accès au patron.
C'est facile d'avoir accès au patron. Il y a une bonne proximité. Mais c'est certain que c'est à géométrie variable, comme dans n'importe quoi. Des employeurs, d'abord et avant tout, cherchent des employés qui vont être performants, qui vont faire l'emploi, Donc, ça dépend un peu de leur degré de sensibilité par rapport à ça, mais au-delà de la sensibilité, ils ont quand même une obligation. Donc, si l'employeur est réticent à mettre en place des choses, il y a un risque pour lui d'être poursuivi, là, parce que c'est une obligation. On regarde la Charte des droits, donc il peut être poursuivi parce qu'il a commis une discrimination. Donc, faut toujours être prudent là-dessus. Donc, je dis que oui, les employeurs sont généralement assez ouverts. Soyons optimistes. Quand on a une situation, je pense que ça peut être possible de régler la situation dans la mesure du possible.
Merci, Franck Bouchard, de nous avoir présenté l'optimisme en plusieurs étapes. Merci, Franck Bouchard.
Merci bien.
Cette émission, c'est du sport et c'est pour ça qu'on a voulu lui donner de l'énergie avec la fabuleuse chroniqueuse paralympique Émilie Bouchard-Labonté. Bonjour!
Bonjour! Fabuleuse, hein?
Ben, en fait, vous skiez alpin et autres plaisirs et autres sports. J'aimerais que vous vous présentiez à nos auditeurs, auditrices, comme c'est la première fois qu'on vous parle. Ben, vous êtes fabuleuse, là, mais vous venez d'où? En fait, vous êtes une chroniqueuse sport à Sportcom, si je comprends bien, oui?
Exactement. Si on peut parler un peu de Sportcom, c'est une agence de communication spécialisée dans le sport olympique paralympique pour les athlètes québécois. Mm-hmm. Donc, tous les athlètes québécois qui sont sur la scène internationale dans un sport olympique paralympique, on est très intéressés par leur performance.
Ah oui.
Eh bien, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les athlètes paralympiques. Alors, ça m'a permis, entre autres, d'aller aux Jeux paralympiques à Rio et à Londres et de suivre avec attention tout leur parcours sur la scène internationale.
Bien, écoutez, on va vous suivre aussi, nous montrer leur parcours. Donc, aujourd'hui, à l'occasion du championnat du monde de ski paralpin qui se déroule en Italie, vous souhaitez nous parler d'un athlète que vous trouvez particulièrement inspirant.
Certainement, Alexis Guimond, qui est tout jeune, 17 ans seulement, qui vient d'intégrer l'équipe officiellement l'équipe nationale de ski para-alpin. Alors, tout jeune athlète, c'était sa première saison officiellement au sein de l'équipe. Il a participé à une Coupe du monde l'an dernier, mais vraiment, là, il a été de tous les événements depuis le début de la saison.
Ah oui.
Un début un petit peu plus difficile en décembre, quelques courses où il a dû abandonner, où il s'est pas rendu au fil de l'arrivée, il a fallu qu'il s'adapte. C'est plusieurs courses, hein, Alexis. En plus, c'est pas un spécialiste, il participe autant aux épreuves techniques, qui sont le slalom géant, et aussi la vitesse, donc en descente et en super G. Donc, c'était un programme assez chargé pour lui. Okay. Ça a fait un petit peu d'adaptation, mais dès janvier, on voyait que c'était derrière lui. Comme je vous disais, 17 ans, première saison, et déjà une victoire en Coupe du monde qui est réalisée là, la semaine dernière. Donc, c'est même tout frais.
Ah oui, donc voilà, il vient tout juste de gagner sa toute première médaille.
Exactement.
Ah,
sa première médaille à vie, puis c'est pas contenté du bronze ou de la médaille d'argent. Il est allé tout de suite avec la médaille d'or. Donc, il était vraiment très, très content. C'est au slalom géant. Mm-hmm. Puis les autres slalom géants qu'il avait fait en Coupe du monde depuis le début de la saison, il avait chuté chaque fois. Donc, c'est jamais rendu jusqu'à la fin du parcours. Et là, ben bang, il réussit à monter sur la plus haute marche du podium. Alors, il était vraiment très satisfait de cet exploit-là. Il trouvait que ça arrivait très vite dans son jeune parcours. Et on voyait déjà là, que ça le motivait beaucoup pour cette semaine, puisque c'est ça, c'est les championnats du monde qui se passent présentement.
Ben
ils ont déjà commencé d'ailleurs
en Italie,
à Tarvisio, en Italie. Puis, ça, on a eu consulté les résultats là, tout de suite avant le début de la chronique. Et il a fini quatrième à la deuxième descente d'entraînement aujourd'hui à Tarvisio. Donc, c'est pas loin du podium, mais ça commence avec la descente demain, ces championnats du monde-là. Mm-hmm. Alors, qui sait voir où est-ce qu'il va pouvoir se situer contre la crème de la crème.
Voilà, voilà. Jusqu'où il va pouvoir skier comme ça. Vous nous donnez l'occasion peut-être de parler des grandes catégories qui existent, peut-être que les gens pourraient mieux connaître, si vous nous les présentiez, ce ski paralympique.
Oui, tout à fait. Donc, d'abord, Alexis, lui, sa catégorie, c'est sûr que c'est une série de lettres, là, si je vous la mentionne, ça ne vous dira rien, mais c'est un LW91. Mm-hmm. Bon, Alexis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en raison d'accident cérébral vasculaire, il y en a eu deux dans sa vie. Le premier, à l'âge de 6 mois, ça lui a donné une petite paralysie partielle de son côté droit. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a une classification en ski, en paraski alpin. Donc, il compétitionne contre des athlètes qui ont à peu près le même genre de degré d'handicap que lui.
Okay.
Donc, il skie debout sur deux skis, mais prêt à compétitionner avec des athlètes qui skient sur un seul ski, entre autres.
Okay.
Mais on appelle ça la catégorie debout. En ski paralpin aussi, il y a une catégorie qui s'appelle le ski assis.
Okay.
Alors, ça, c'est souvent pour les athlètes qui ont peut-être une paralysie au bas du corps ou bien des membres manquants qui, eux, vont skier sur une espèce de petite luge avec un ski. Donc, ça, c'est la catégorie de ski assis. Puis, il y en a une aussi pour les personnes qui ont des problèmes de vision des difficultés de vision. Donc, là, ça va être pour... ils vont être dans une catégorie précise et eux, ils vont avoir un guide aussi qui vont les guider avec des communications, un petit micro, un petit casque d'écoute pour leur indiquer par quel parcours... quand est-ce le temps de faire ces virages.
Bien. Ben, donc, il nous reste peu de temps. C'est le seul Québécois au championnat du monde dont vous parlez. Est-ce qu'il y a d'autres Canadiens qu'on doit surveiller?
Oui, il y en a plusieurs. Un, entre autres, là, Mac Marcoux, qui justement est dans la catégorie pour qu'il y ait des problèmes de vision. C'est un vétéran sur la scène internationale. Plusieurs médailles à son actif, donc ça va être très intéressant de le suivre. Mais il y a au moins une dizaine d'athlètes là, canadiens qui vont représenter le pays pendant toute la semaine à ces championnats du monde-là.
Ah, c'est heureux. Écoutez, il ne faut pas seulement suivre ces athlètes. Émilie Bouchard-Labonté, merci d'être avec nous. Vous êtes de Sportcom. Vous allez revenir, hein, si je comprends bien.
Oui, sans faute.
Donc, mensuellement, on se fera une chronique sport ensemble. Merci, Émilie Bouchard-Labonté.
Merci, au revoir.
Écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
En défense de droit, on s'adresse souvent à des avocats, mais il ne faut pas oublier que les notaires sont là, et surtout quand il est question de contrat. Donc avec nous, un des notaires spécialisés sur les questions du handicap, Maître Laurent Fréchette. Bonjour Maître Fréchette.
Oui, bonjour Monsieur Rassette.
Merci d'être avec nous. L'hiver, vous inquiète pas trop?
Écoutez, il nous manque une partie de notre personnel aujourd'hui.
Oui, je peux imaginer.
C'était à titre préventif qu'on voulait s'assurer qu'ils ne prennent pas de chance d'y laisser leur peau.
Bon, ben, écoutez, merci beaucoup de prendre soin des gens. Et donc, vous en prenez soin de toutes sortes de manières, mais je voudrais savoir, par curiosité, comme les gens qui nous écoutent, quel acte les notaires peuvent faire directement en lien avec les personnes en situation de handicap?
Évidemment, tout est sujet au type d'handicap. Évidemment, si on est dans un cas d'handicap intellectuel, vous comprendrez qu'on va être un petit peu plus limité dans les documents qui pourront être faits. Encore qu'il arrive parfois qu'on va être capable, par exemple, avec une personne qui va avoir une déficience intellectuelle légère, d'obtenir un document du médecin qui va nous indiquer que, bien que la personne puisse avoir une certaine limitation, qu'elle est quand même capable, par exemple, de faire une procuration ou de rédiger un testament simple. Évidemment, on adapte notre discours avec la personne qu'on a devant nous.
Vous avez l'habitude d'adapter même le langage juridique en présence de personnes qui auraient une déficience intellectuelle?
Je vous dirais, même avec des gens bien portants, on a à adapter. Vous savez, la loi est d'une complexité. Aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir perdre les gens, ne serait-ce qu'avec un choix de mots qui ne serait pas adéquat. Alors, nécessairement, nos explications ont à être adaptées. C'est entre autres le rôle du notaire. Son devoir de conseil, c'est de s'assurer que la personne qui a devant lui va donner un consentement qui sera libre et éclairé. Et donc, à partir de ça, devra adapter son discours avec les connaissances puis la situation de la personne qui est présente devant lui.
C'est intéressant de le voir comme ça. Vous êtes un spécialiste du consentement, donc.
Absolument. Le notaire, comme officier public, fait preuve de la date, du lieu, de la capacité des parties et de leur consentement libre et éclairé. Et face à la loi, bien, il y a une présomption qui est donnée que les documents qui sont signés devant un notaire, bien, c'est beaucoup plus difficile de les remettre en question. Alors, on peut être en situation, par exemple, le meilleur exemple qu'on peut avoir, quand on signe un testament notarié, bien, ce testament n'a pas besoin d'être validé devant les tribunaux pour venir confirmer que c'est bel et bien vous qui avez signé votre testament. Le notaire va faire preuve de votre identité parce qu'il aura pris des pièces d'identité, il va avoir validé que c'est bel et bien vous qui signez et qu'au moment où vous signez, bien, vous comprenez qu'est-ce que vous êtes en train de faire.
Alors, OK, donc vous évitez un peu tout le branle-bas de combat que pour apporter le litige ou la vie en...
Et moindrement qu'on a un doute quelconque ou qu'on est en présence d'une personne qui vit une situation particulière parce qu'elle a eu des problèmes de santé, sous médication, est hospitalisée ou autrement, on s'empresse d'aller chercher un document du médecin qui va être ni plus ni moins qu'un joker qu'on va mettre dans notre manche parce que de cette façon-là, le médecin, lui, vient appuyer d'un point de vue médical la capacité physique. Alors, lui confirme que la personne, elle est capable de donner son consentement et ça, en plus du document de notarié, ben, ça devient pratiquement blindé. Là. C'est très, très, très difficile dans un cas comme celui-là d'arriver à faire une démonstration contraire.
Alors, donc, Maître Fréchette...
C'est un exemple là, de ce qu'on peut faire.
Maître Fréchette, donc, vous êtes souvent l'homme du patrimoine. Hein?
Oui.
C'est ce qu'on dit. Expliquez-nous votre pratique particulière dans ce domaine.
Alors, en ce qui me concerne, depuis une vingtaine d'années, j'ai développé une expertise auprès des familles qui ont des personnes vulnérables dans leur entourage, personnes handicapées, on a fait en sorte de mettre en place des structures testamentaires qui vont être adaptées pour la transmission puis pour la protection de patrimoine. Donc, des testaments, par exemple, qui vont être avec des structures de fiducie dans lesquelles on se dit, ben dans un cas où une personne n'est pas en mesure d'administrer elle-même, les biens vont être transmis à cette fiducie qui va voir à veiller sur la personne. Et veiller sur quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on le fait physiquement nous-mêmes, ça veut dire qu'on voit à s'assurer que ça puisse se faire. Alors, on regroupe des personnes, deux, trois personnes qui vont agir comme fiduciaires et qui vont administrer les sommes en question. Évidemment, l'objectif qu'on a en tête, ben, c'est d'éviter que ce soit le curateur public, par exemple, qui devienne l'administrateur des sommes pour permettre aux parents de mieux définir leur volonté, comment les choses vont être faites, etc.
Mais aussi, est-ce que les personnes vulnérables peuvent avoir plus facilement, pas juste accès, mais pouvoir de décision quand on a une structure plus alternative?
L'intervention qui se fait à ce moment-là dans les précisions qu'on va donner, on peut donner quand même plus de détails. Alors, moi, j'ai appelé ça un mandat humain. Alors, c'est pas seulement une vision juridique, financière ou fiscale, mais les parents peuvent venir préciser leurs valeurs humaines dans la façon qu'on va s'occuper de leur enfant. Et à partir de ça, donner un état d'esprit, définir un petit peu mieux leur approche pour outiller les fiduciaires qui auront administré ou les mandataires ou les liquidateurs qui auront à gérer les sommes d'argent, ben, c'est un petit peu comme s'ils se mettaient dans leurs souliers et puis essayent de mieux saisir leurs pensées.
Donc, vitement, pour que les gens comprennent,
préciser des choses.
Un fiduciaire, c'est quelqu'un qui est responsable de la fiducie, donc l'argent, les avoirs qui constituent un fonds. Puis les liquidateurs...
C'est la personne qui va régler la succession. Ce qu'on appelait jadis l'exécuteur testamentaire.
Ah oui, bon, voilà.
Alors, à court terme, la personne décède, le liquidateur va voir à régler cette succession, faire le nécessaire, payer les factures, récupérer les sommes d'argent qui sont dues, remettre les biens aux héritiers. Une fois que le travail du liquidateur est terminé, dans la mesure où on crée une structure de fiducie, ben, ce sont les fiduciaires qui vont prendre la relève. Et là, c'est un rôle qui est à plus long terme. Quand on est en présence de personnes qui sont vulnérables, on n'indiquera pas que c'est pour un an, deux ans ou lorsqu'il y aura 25 ans. Okay. Habituellement, ça va être la vie entière. Oui. On va gérer les sommes vraiment avec une vision long terme.
Et humaine.
Et humaine.
Voilà.
Et je vous dirais que c'est une distinction qui est fondamentale puisque on n'est pas strictement à gérer de l'argent, on est à veiller sur quelqu'un, prendre soin de cette personne, voir est-ce qu'elle s'épanouisse, voir est-ce qu'elle soit heureuse, voir qu'elle continue de développer ses capacités, maintenir les habiletés qu'elle a pu développer au fil du temps, et au fond, choisir les personnes appropriées pour pouvoir le faire. Okay.
On entend bien votre pratique. Bon, évidemment, on parle de patrimoine, de mandat humain pour pouvoir en disposer. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que vous êtes impliqué beaucoup dans votre communauté. Entre autres, vous avez été administrateur du conseil d'administration des Compagnons de Montréal. Donc,
j'ai été le président de leur fondation
en plus,
également.
En plus, mais j'ajouterais, vous avez été un formateur pendant des années et même à la Chambre des notaires, vous avez été officier pour les questions de formation, que ce soit formation continue ou admission. Écoutez, donc, pour que les gens comprennent, admission, ça veut dire pour devenir notaire, formation continue, c'est une obligation, comme toutes les professions, il faut se former tout au long de la vie. Alors, j'ai une question à vous poser, là. Vous avez vu des cohortes de notaires, des personnes qui étudiaient pour devenir notaire. Oui. Diriez-vous que la profession de notaire est inclusive pour les personnes en situation de handicap?
Écoutez, ça dépend du type d'handicap. Il y a des limitations auxquelles une personne non-voyante, par exemple, d'être notaire nécessite qu'on doit confirmer, valider le consentement et l'identité d'une personne. Alors, vous comprenez qu'une personne non-voyante pourrait difficilement recevoir des actes notariés.
Oui.
Parce qu'elle ne serait pas capable de confirmer l'identité de cette personne-là de façon certaine. Par contre, j'ai des personnes qui sont malentendantes, qui ont des difficultés et qui, avec des appareils, malgré tout, sont notaires. Des personnes qui sont en fauteuil roulant qui sont notaires. Des personnes qui vont avoir eu différentes problématiques physiques et qui peuvent arriver à faire une pratique tout à fait normale.
Ouais.
Alors, en ce sens-là, il n'y a pas une limitation sur un point de vue professionnel. La Chambre des notaires, elle est totalement ouverte aux gens, pour autant qu'on soit dans une situation de respect de la loi, là, comme je disais, valider certaines informations, évidemment, il y a une contrainte physique. Mais pour le reste, non, définitivement, comme profession, tout ce qui peut être fait pour faciliter les choses, on le fait.
Okay.
Et au niveau du comité sur les admissions, ben, il y a des demandes qui nous ont d'accommodement, qui nous ont été faites à l'occasion et auxquelles on s'y est arrêté. Une personne qui va
ça
avoir
se passe assez facilement d'habitude.
Oui, ben, écoutez, il y a beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui qu'il y en a eu dans le passé. On regarde tout ce qui est des personnes qui vont avoir, par exemple, un déficit d'attention et qui vont avoir besoin de plus de temps pour faire un examen ou une personne qui aura besoin d'avoir des conditions pour être capable d'exercer au niveau de la pratique, pour autant que ça ne vienne pas en contravention ou avec la loi ou avec des conditions de normes de pratique, il n'y a aucune raison que...
Mais en fait, peut-être le travail qui reste encore à faire, puis j'entends bien là, toutes les difficultés, c'est peut-être de trouver un moyen que les personnes aveugles, avec des adaptations, avec un truc équivalent à Orbit...
Éventuellement, on va se retrouver avec des avancées technologiques.
Oui, c'est ça.
On pourra être capable d'avoir d'autres vérifications biométriques ou autres de l'identité d'une personne qui probablement pourrait régler une partie du problème. Là, on sait qu'on est prêt avec des contraintes physiques en ce moment.
Okay.
On a à identifier la personne et quand moi je prends la carte d'assurance maladie d'une personne, puis je regarde, j'ai à valider et sa photo et sa
signature
et les informations. Donc,
les gens peuvent avoir des pièces d'identité ou des preuves sous tout support.
Ouais.
Ça ne veut pas dire même que c'est électronique ou que ça peut être lisible par un appareil.
Exactement.
Donc,
et qu'on peut revalider avec la personne qui est devant nous. Alors, c'est une contrainte physique qu'on a dans ce cas-ci, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'ouverture pour toutes les autres choses qui ont été faites.
Mais dans le domaine du notariat, une personne aveugle pourrait quand même travailler, enfin, je pense, ou un huissier notaire de la Chambre ou ailleurs.
C'est que d'être notaire, ça veut dire qu'on a à être en mesure de recevoir des actes.
Okay.
Et donc, à partir de ça, il y a une contrainte qui, à mon sens, est problématique parce que lorsque une personne est admise à pouvoir pratiquer, ben, mm-hmm. elle est admise à pouvoir faire toute la pratique. Il n'y a pas des limitations. Et donc, si une personne ne peut pas rencontrer cet élément-là, mm-hmm. je dirais qu'il y a peut-être un élément là, qui est plus problématique pour ça.
Donc, il faut travailler là-dessus.
Toute autre problématique, je dirais, on est en mode de recherche de solutions.
Parfait. Écoutez, vous avez une feuille de route longue. Malheureusement, on ne pourra pas en témoigner davantage à cette émission, mais on sent bien...
Il y aura bien d'autres occasions de le faire.
Voilà, ça sera un plaisir. Il y a le mois de la justice là, qui approche bientôt. On en reparlera peut-être. Donc, je vous merci beaucoup, Maître Laurent Fréchette.
Ça a été un grand plaisir et je vous souhaite une bonne journée. Merci
oui,
beaucoup.
Malgré les intempéries. Bonne journée, Maître Fréchette.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Même si demain te semble toujours trop loin, si tu pouvais au moins me dire ce qui s'en vient, est-ce que le meilleur déjà passé derrière, je me couche avec la peur de te voir m'y faire. M'inventer le soir.
Il faut bien qu'à cette émission, on s'intéresse parfois à la force du nombre. Eh bien oui, c'est le moment où on se dit « Ah, une bonne statistique nous ramènerait une envie d'inclusion. » Alors, je vous explique, j'ai envie de vous parler de la population. Parce que très souvent, que ce soit dans cette émission ou ailleurs, on se dit « Ah bon, il y a les personnes handicapées de ce côté, les personnes âgées de l'autre, les personnes aveugles, bon, et les autres. » Mais c'est faux. C'est faux, puisque notre société est composée d'une grande diversité de gens. Entre autres, vous aurez peut-être, tristement, une chance sur trois de vivre avec le cancer. Bon, la plupart du temps, vous allez vous en sortir grâce aux nouvelles technologies, mais vous aurez une incapacité temporaire. Une personne sur sept aura un trouble proche de l'arthrite, par exemple. Et nous vieillissons tous. Je ne vous dis pas ça pour qu'on se sente mal. Ce que je veux vous dire, c'est que nos capacités changent. Tellement que selon l'enquête québécoise sur les limitations d'activité, les maladies chroniques et le vieillissement, qui a posé ces chiffres en 2010-2011, on apprenait que le tiers des Québécois âgés de 15 ans et plus vit avec une incapacité de longue durée. Ça, ça fait du monde. Alors, arrêtons de ostraciser tout le monde. On est pas mal assez différents. On a des manières de lire différentes, on a des déficiences, que ça soit lié à la vision dans 4,6% des cas, que ça soit une déficience motrice pour à peu près 13% des gens, que ça soit une petite déficience liée à l'agilité, que ça soit 15,2%. Et aussi, on lit pas tous de la même manière, on comprend pas tous le monde de la même manière. Alors, cette émission était sur les accommodements raisonnables. Bien, ce que je vous dirais, c'est que c'est très raisonnable d'imaginer qu'on va tous avoir besoin d'adaptation, d'accommodement un jour dans notre vie. Soyez donc inclusifs. En guise de festivité, ça se dit pas exactement, mais en guise de plaisir festif, disons, de fin d'émission, on va s'interroger, ou plutôt on va interroger une belle personne qui est ambassadrice du 375e de Montréal, c'est-à-dire l'ambassadrice de Mercier Hochelaga-Maisonneuve, Maude Massicotte. Bonjour Maude.
Bonjour Benoît.
Merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir. Merci de m'accorder l'invitation pour une entrevue avec vous.
Bien, c'est toujours un plaisir. En fait, c'est la deuxième fois qu'on se parle ici à l'antenne. Et c'est surtout parce que là, il y a des gens qui se sont vraiment intéressés à votre parcours qui est hallucinant et qui vous ont nommé plus ou moins ambassadrice dans le cadre du 375e de Hochelaga-Maisonneuve. Comment ça s'est passé?
Dans le fond, la ville de Montréal a décidé de faire une concertation avec Concertation Montréal et aussi le Forum Jeunesse Lille de Montréal a décidé d'implanter un projet qui s'appelle Jeunesse 375e Montréal. Mm-hmm. Ils ont fait appel à tous en faisant un long sondage à savoir qui serait intéressé pour représenter la jeune Montréalaise pour pouvoir faire le projet en vue du sommet qui aura lieu le 6 et 7 mai prochain. Mm-hmm. Donc, j'ai été choisie par la ville de Montréal pour représenter mon quartier.
Bien, c'est magnifique. C'est un quartier que j'adore. Enfin, moi, toute ma famille est née là. Est-ce que vous êtes née là, Maude?
Pardon, j'ai pas compris.
Vous y habitez ou vous avez grandi là?
Oui, j'ai grandi à Hochelaga-Maisonneuve, puis mes parents habitent dans le même quartier.
Ah oui?
J'habite dans le même quartier, donc depuis mes 24 ans, j'habite dans le quartier Hochelaga.
Bon, alors, c'est heureux, il faut en être fier, c'est un quartier magnifique qu'on n'appelle pas Oma, hein? C'est Hochelaga, soyons clairs.
Oui.
C'est ça. en fait, de ce que j'en sais, vous êtes la seule ambassadrice en situation de handicap. Est-ce que vous pensez qu'il faut exposer cette situation-là? Est-ce que faut la mettre à l'avant-plan dans cette campagne d'ambassadeurs-là?
Bien, je vous dirais qu'on est 19 ambassadeurs avec des histoires différentes, avec des cultures différentes. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de pouvoir mettre une personne en situation de handicap pour représenter les personnes en situation de handicap.
Oui.
Je ne pense pas que c'était le premier but non plus. Je pense que c'était beaucoup plus pour la diversité, avoir le plus possible de personnes de différentes histoires et d'horizons.
Bien, en fait, vous avez un parcours vraiment impressionnant pour votre jeune âge. Là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient être étonnés. Mais d'ailleurs, pour en lire un peu plus, et j'en profite pour parler du 375e, est sorti depuis peu une nouvelle entrée de blog sur vous. Hein? Le blog, on le repère au www.jeunesse375emtl.com et on apprend On en apprend plus sur vos réalisations et entre autres, une de vos réalisations dont vous êtes très fier, c'est le groupe Défi sans limite. Qu'est-ce que c'est, Maude de Massicotte?
Oui, c'est un article que j'ai écrit dans le fond. La ville de Montréal demandait à ce qu'on fasse des cours d'histoire un peu pour connaître nos engagements et tout ça. Mm-hmm. Et que j'ai créé ce groupe-là, ils voulaient en faire part à tout le monde. Donc, j'ai eu une bonne idée de pouvoir écrire un petit article pour parler davantage de ce projet-là.
Puis, ce projet-là, ça consiste en quoi exactement? Parce que il faut dire, c'est important aux gens qui nous écoutent, il faut bien le prononcer parce que ça s'écrit D-E accent aigu F et donc et l'article P-H-Y-S. Pourquoi l'avoir écrit comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'organisation?
On voulait faire une liaison avec un défi, comme c'est un défi physique, dans le sens des sciences physiques. Parce mm-hmm. qu'on parle d'un groupe de sciences physiques. Donc, on voulait faire la liaison que c'est un défi d'avoir une déficience physique, puis en même temps de dire que c'est une déficience physique. Donc, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de S à la limite. C'est normal, parce qu'il n'y a pas de limite. Donc, il n'y en a pas, fait qu'il n'y a pas de S.
OK. Donc, c'est une fondation super, super optimiste, enthousiaste. Qu'est-ce que fait exactement cette fondation-là, que vous avez fondée d'ailleurs, il faut le rappeler?
Oui, c'est pas une fondation, c'est un organisme à vision lucrative.
OK.
Créé le 15 octobre 2015. Mm-hmm. Donc, comme vous savez tous peut-être, que nous, les personnes en situation de handicap physique, dès 18 ans, on n'est plus assez vraiment pour avoir de l'aide financière, pour pouvoir faire des activités, pouvoir socialiser. Donc, j'ai mis en place un groupe pour pouvoir des jeunes qui désirent comme moi pouvoir sortir, voir leurs amis, mais avec l'aide d'un accompagnateur bénévole pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins.
Donc, dans le fond, vous pourvoyez des accompagnateurs bénévoles. En gros, c'est ça. C'est quand même rare là, comme service. Soyons honnêtes, c'est très, très difficile de trouver des accompagnateurs. Vous travaillez surtout à Montréal, c'est ça?
Montréal, les environs. Okay. Pour la recherche de jeunes de 18 à 30 ans qui veulent s'impliquer. Mm-hmm. On n'est pas là pour dire quelle activité, on est juste là pour soutenir, quelle activité ils voulaient faire, quelle sortie, on va les soutenir et essayer de trouver de faire en sorte que ça marche et avoir des accompagnateurs pour qu'ils puissent pouvoir bénéficier de leur sortie ou de leurs activités. Chaque membre paye leurs activités, mm-hmm. mais l'organisme couvre les frais pour les bénévoles.
Ah, bon, ben c'est bravo pour cette initiative-là, mais il faut le dire aux gens qui nous écoutent, Maude Massicotte, je vous ai vu danser merveilleusement sous la direction de Marilyn Turcot, je vous ai vu vous engager pour la défense des droits avec Execo. Évidemment, on constate que vous avez fondé vous-même une fondation, Défi sans limite, vous avez fait du sport extrême dans les Açores. Je ne sais pas trop ce qui manquerait à votre feuille de route à votre âge là, pour qu'on dise que vous êtes très accompli. Est-ce que c'est ça que font toutes ces ambassadeurs, ambassadrices-là du 375e? Est-ce que c'est des gens qui s'impliquent énormément, qui sont des hyperactifs au fond?
Oui, c'est des gens qui sont très... je trouve que c'est très impressionnant. Ils ont un grand bassin de connaissances. Ils ont beaucoup, ils veulent beaucoup. Ils ont aussi une grande connaissance de leur quartier, des mm-hmm. gens qui veulent aider. Donc, c'est un très beau groupe que je m'entends très bien avec mes collègues.
Puis donc, quel rôle vous allez avoir dans le cadre de ce 375e anniversaire de Montréal?
Dans le fond, nous, on prête notre voix aux jeunes pour pouvoir leur amener leurs idées, leur amener mm-hmm. qu'ils souhaitent pour Montréal d'ici 25 ans. Donc, de renvoyer le plus possible leurs idées, qu'est-ce qu'ils voudraient comme changement mm-hmm. ou amélioration, en vue de l'amener au sommet jeunesse qui aura lieu le 6 et le 7 mai prochain.
Ah oui, donc il y a un sommet le 6 et 7 mai prochain. C'est génial. J'imagine que vous assurez qu'on va y parler d'accessibilité universelle, comme je vous connais un peu.
Oui, mais c'est mon but de pouvoir en accueillir là-dessus.
Bon, excellent. Donc, continuez de promouvoir la chose. Je vous rappelle qu'il y a un blog tout chaud qui vient de sortir pour présenter ces jeunes comme Maude Massicotte qui prennent la parole, qui tentent aussi d'entendre ce que les jeunes ont à dire. Donc, c'est le www.jeunesse375mtl.com. C'est bien ça, c'est là qu'on vous retrouve aussi?
Oui, vous pouvez même suivre notre page Facebook aussi. D'ailleurs, je vais faire deux consultations publiques d'ici mars prochain. Donc, restez à l'appui de notre page Facebook pour avoir plus d'informations sur mes consultations publiques.
Merci beaucoup, Maude Massicotte. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne journée.
Ben oui, bon 375e, mais je rappelle que Maude Massicotte est ambassadrice de Merci Hochelaga-Maisonneuve. On est-tu fiers de ce quartier-là? On l'aime et donc elle le défend fièrement, mais aussi elle défend la patrie de l'accessibilité universelle. Moi, je l'aime pas mal, celle-là aussi. Alors, on est en fin d'émission maintenant. Pour plus d'informations sur les intervenants ou même les organismes présentés à l'émission, visitez la page d'Accès libre sur www.canalem.vuesetvoix.com. Je vous le dis, Vues et voix, c'est au pluriel. Ça, c'est une espèce d'indice, là. On n'en a pas juste une voix à l'émission. Donc, aujourd'hui est avec nous le docteur Richard Leblanc. Très important de continuer de suivre son histoire, son combat. On entend souvent toutes sortes de luttes pour les accommodements raisonnables au travail, mais en médecine, c'est assez rare. Donc, on lui souhaite bonne chance. Merci aussi au maître Laurent Fréchette, notaire spécialisé pour les personnes handicapées. Maude Massicotte, notre ambassadrice. Merci aussi à nos chroniqueurs, Franck Bouchard et la toute nouvelle dans l'équipe, Émilie Bouchard-Labonté, qui va nous parler de sport. Donc, Christiane Campagnat aux communications, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Ici Benoît Racette. On se reparle la semaine prochaine et en espérant ensemble faire un véritable accès libre, même l'hiver!